Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Bonjour à toutes et à tous. 10 films qui ont changé le monde, 7e épisode, Taxi Driver de Martin Scorsese. Avec Bernard Benoliel. Et Régis Dubois. C'est le générique de début de Taxi Driver. Le film, on le sait, sera la Palme d'Or de 1976. Je crois que le président du jury, Tennessee Williams, n'en était pas ravi. Il en déplorait la violence et les aspects politiques. Il y a eu des sifflets pendant la projection. Ça a provoqué le désarroi d'une bonne partie de la critique. Mais on n'en est pas encore là. Régis Dubois, vous êtes avec nous à distance de Marseille. Vous avez publié il y a 2 ans une biographie du cinéaste phare du cinéma moderne qu'il est aujourd'hui, après plus de 50 ans de carrière, 25 longs métrages et 10 documentaires. Le livre s'appelle Martin Scorsese, l'infiltré. Mais où en est Martin Scorsese comme cinéaste quand il entreprend Taxi Driver? Il a déjà 4 longs métrages derrière lui, dans des allers-retours entre New York et Hollywood, mais sa position est loin d'être assurée, Régis Dubois.
Taxi Driver sera son 5e film. Mais jusqu'alors, il a fait 4 films, mais pas de grands films, on peut dire. En tout cas, il a fait un film d'étudiant qui s'appelle Who's That Knocking at My Door, qui sort entre 67 et 69 dans différentes versions. Ensuite, il fait un film d'exploitation pour Roger Corman, c'est-à-dire un film de série B à destination des drive-in, qui est Bertha Boxcar en 72. Et puis un premier film d'auteur qui est quand même Mean Street, hein, grand film en 73, film très autobiographique. Et puis un film de commande qui s'appelle Alice n'est plus ici, pour les studios, mais voilà, il n'a pas encore réalisé son grand film, et ça c'est pour la... Donc effectivement, il est pas encore très connu, même si son dernier film a eu quand même un petit succès, et surtout, personnellement, il va très mal en fait, Martin Scorsese, en 75, voilà, ça fait quelques années qu'il est en Californie, je rappelle qu'il vient de Manhattan, de New York, de Little Italy, qui est un quartier, un ghetto italien, il se retrouve dans un monde qui n'est pas le sien, alors il souffre d'asthme, il souffre d'insomnie, il mange très mal, il prend des pilules pour se réveiller, pour dormir. Bref, il a une santé exécrable. Et surtout, il est très anxieux, en fait. Hein, Martin Scorsese, il est très névrosé, il est travaillé par sa morale chrétienne, il est habité par un sentiment de culpabilité. Et tout ça fait que, voilà, il est dans un état un peu pitoyable. Et il n'arrive pas à faire ce film. Alors, il a des vues sur le scénario de Taxi Driver, qui circule depuis quelques temps, mais il n'a pas encore la notoriété, enfin, pas encore avant 75 pour le faire. Juste, je dirais quelque chose qui est important, c'est que très jeune, il est tombé sur le livre de Dostoïevski qui s'appelle Les carnets du sous-sol, et il raconte qu'il s'est reconnu dès l'incipit, en fait, dans ce personnage névrosé. Le début du livre dit « Je suis un homme malade, un homme malade, un homme méchant, un homme déplaisant. » Et c'est vrai qu'au fond de lui, il nourrit cette... sentiment d'indignité, de culpabilité. Et il dira d'ailleurs, hein, si au fond de vous-même vous êtes convaincu de votre indignité, que faire? Donc c'est vrai que le scénario, on va en reparler bien sûr, mais de Taxi Driver lui parle. Ce personnage, il s'y reconnaît de suite.
Le scénario auquel vous faites référence, il est signé Paul Schrader, quelqu'un qui va peut-être pas très bien dans sa tête non plus au moment où il l'écrit. Bernard Benoliel, vous avez publié une étude poussée et passionnante de Taxi Driver, sous-titrée le criminel et l'artiste. Et effectivement, Les carnets du sous-sol de Dostoïevski, c'est le point commun entre Scorsese qui voulait l'adapter et Schrader qui s'en est beaucoup inspiré pour écrire ce scénario.
Dostoïevski Dostoïevski, Les carnets du sous-sol, mais d'autres livres de Dostoïevski aussi, Souvenirs de la maison des morts. Ils ont Dostoïevski en commun, pas seulement, ils ont beaucoup de points communs, bien qu'ils soient tous les deux torturés de manière différente. Mais effectivement, Dostoïevski, pour eux, est un socle, est une envie commune, et surtout, ça leur paraît une littérature à la fois ancienne et complètement actuelle, et qu'ils transposent ou superposent à l'agitation, l'ébullition de New York au milieu des années 70. Alors qu'en même temps, Schrader imagine au tout début effectivement ce qui va devenir le scénario de Taxi Driver. Il l'imagine à Los Angeles lors d'une dérive qui est la sienne, hein, une dérive existentielle liée à différents soucis dans sa vie personnelle, mais qui fait qu'à un moment, il se voit lui-même comme un homme solitaire, et lui vient en tête la métaphore du taxi driver, c'est-à-dire en quelque sorte l'homme enfermé dans une cage mobile, mais en même temps, en quelque sorte, l'oublié de Dieu.
Alors, ce scénario, il dira, il a jailli de moi comme un animal. Quand Scorsese s'en empare, il dira, je brûlais à l'intérieur de ma peau. Vous dites qu'ils ne sont pas torturés de la même manière, peut-être parce que l'un est calviniste, l'autre catholique. Il y a toujours cette lecture un peu de l'adaptation par Scorsese du scénario, d'un scénario très ascétique, très bressonien au départ. Pickpocket est une des influences aussi du film, qui sera complètement transformé par Scorsese, peut-être en enlevant l'idée de transcendance. Absolument. Qu'il y avait dans le scénario.
Absolument, je pense qu'ils ont l'un protestant, l'autre catholique, sont tous les deux torturés en quelque sorte par la question de la foi, de la croyance, mais pas de la même manière là aussi. Disons, pour résumer, Paul Schrader est obsédé par la grâce et le chemin tortueux qu'il faut pour ces personnages ou soi-même pour justement accéder à cette grâce. Et dans le cas de Scorsese, c'est un peu différent. On dirait qu'il y a chez lui la tentation de la souffrance, évidemment souffrance christique, pour accéder alors peut-être à une version améliorée, augmentée de soi-même.
Alors, pour compléter le tableau de toutes les énergies qui vont concourir pour faire Taxi Driver, il y a aussi, Régis Dubois, des producteurs plus ou moins indépendants, liés au studio, un couple, Julia et Michael Phillips, qui viennent de remporter plusieurs Oscars pour L'Arnaque, qui produiront plus tard Rencontre du Troisième Type. Comment est-ce qu'ils s'insèrent dans cette histoire, Régis Dubois?
Martin Scorsese fréquente, grâce à Brian De Palma, qui le fait rentrer et pénétrer des cercles un peu du cinéma. Donc c'est là qu'il côtoie notamment Steven Spielberg, George Lucas, mais aussi Paul Schrader et les producteurs, effectivement, Julia et Michael Phillips, qu'il croise dans des soirées. Et alors au début, ces producteurs ne croient pas du tout en Scorsese, c'est-à-dire qu'il n'a pas fait grand-chose. Le scénario est écrit en 72, hein, donc dès cette époque-là, il connaît un peu tout ce monde-là. Et c'est vrai qu'il n'a pas encore la légitimité, puisqu'il a fait qu'un film d'exploitation, on va dire, un film de série B. Et donc il n'y croit pas. Ensuite, c'est Schrader qui verra Mean Streets et finalement De Niro qui aura cet Oscar pour Le Parrain 2. Entre-temps, Scorsese aura fait un film à succès pour les studios. Donc c'est comme ça que ça va se passer. Mais au début, c'est vrai qu'ils sont assez réticents.
Alors, il faudrait aussi rajouter un larron supplémentaire qui est Bernard Herrmann. Ça sera la dernière musique de film. On vient de l'entendre dans ce générique. Alors, ce générique est très intéressant, Bernard Benoliel, parce que s'installe tout de suite une dimension à la fois picturale, onirique et mythologique. Mythologique avec ce taxi qui surgit comme ça de la brume, ces fumées new-yorkaises qui s'échappent des sous-sols, ces plans monochromes sur le regard de Niro et cet aspect très flottant des images vues à travers la pluie qui recouvre les vitres du taxi.
Oui, et ça va même jusqu'à la toute fin du générique, au petit matin quand Travis va à la station de taxi pour espérer être engagé comme chauffeur.
Ça, on va l'entendre tout de suite.
Il entre dans le bureau et il est encore accompagné autour de lui des fumées de la nuit. C'est-à-dire, c'est un procédé absolument anti-réaliste, mais qui dit bien d'emblée que si on réduit le film à son seul réalisme ou à sa seule dimension documentaire, qui est évidemment très prégnante et très présente, on passe à mon avis à côté d'une des dimensions du film qui est évidemment sa puissance onirique, sa puissance presque expressionniste, sa puissance qui fait que Scorsese lui-même disait de ce film que c'était une sorte de rêve éveillé, un personnage de somnambule, d'insomniaque, et on le voit effectivement dès ce générique que vous mentionnez, c'est-à-dire que Travis Bickle, le personnage joué par De Niro, apparaît avec un très gros plan de ses yeux, c'est-à-dire qu'il est réduit à sa fonction principale de voyeur, de survoyant, presque omniscient, le paradoxe pour lui étant d'être un voyeur qui n'est vu par personne.
Alors, vous l'avez presque annoncé, on va écouter la séquence suivante qui est juste après le générique. On est dans un dépôt de taxi, et pour ceux qui connaissent un peu New York, on est en bas de la 57e rue, en plein Hell's Kitchen.
Alors, Bickle, pourquoi vous voulez faire le taxi ?
Je dors pas la nuit.
Faut aller voir les films porno ?
Ça aussi, j'ai essayé.
Ici 347, c'est mon client. Qu'est-ce que vous faites actuellement ?
Bon, je passe la nuit dehors, je me balade dans le métro, les bus, alors je me suis dit, bon, rôder pour rôder, mieux vaut être payé pour ça.
Vous feriez la grande banlieue et le Bronx, Harlem ?
N'importe quoi, n'importe quand.
Même pendant les fêtes juives ?
J'ai dit n'importe quoi, n'importe quand.
Bon, alors faites voir votre licence de chauffeur.
347, 347, je suis libre, 347.
Et votre dossier conducteur ?
Il est net, 347, clair et net, comme ma conscience.
Vous voulez me mettre en boîte ? Ce qu'il y a de moche avec les types comme vous, c'est qu'ils veulent tout le temps me mettre en boîte. Alors si vous êtes là pour me mettre en boîte, vous gênez pas, la porte est grande ouverte.
Alors, je m'excuse, j'ai dit ça comme ça.
État de santé ?
Correct.
Quel âge ?
26 ans.
Instruction ?
J'en ai un peu. De-ci, de-là, quoi.
Harry ! Hé ! Harry !
Position militaire.
Bon et loyaux service. Mai 1973.
Vous étiez dans quelle arme ?
Marines.
J'étais dans les Marines, moi aussi. Alors, en fin de compte, tu veux du travail en noir ? De la perruque, hein ?
Ah non ! Je veux simplement faire la journée continue. La perruque, c'est quoi ?
Bon, écoute, remplis ce formulaire et reviens demain au changement d'équipe.
Bon, c'est bien joli tout ça, mais alors qu'est-ce que je fous, moi ?
Eh ben, tu vas directement dans la 58e. Ça bouge dans la 57e.
C'est quand même étrange qu'on nous ait d'abord présenté Travis Bickle dans le générique à bord de son taxi pour le voir ensuite procéder à son entretien d'embauche, comme s'il avait toujours été un peu un taxi driver avant de le devenir dans les faits. Quoi qu'il en soit, Bernard Benoliel, au-delà de ces éléments de présentation du personnage par lui-même qu'on vient d'entendre, il n'y aura pas par la suite dans le film de psychologisation du héros ni d'explication vraiment de sa solitude, notamment cette question du Vietnam, qui a été à peine évoqué ici. Ce n'est pas un commentaire sur le Vietnam, dira Martin Scorsese, et Travis Bickle, ce n'est pas John Rambo.
C'est ça, c'est-à-dire qu'on peut pas non plus rabattre le film sur une explication sociologique ou contextualisée par rapport à l'époque. Bien sûr, tout ça joue. Le film est une éponge, hein. Il absorbe la ville, des références cinéphiliques de Martin Scorsese, des références littéraires, on y a fait allusion. Donc le film est absolument une éponge. Et en même temps, ce qui, à mon avis, fait qu'il traverse le temps ou continue d'exciter les consciences, c'est que c'est... On est face à la fois un personnage et un film qui reste un peu une énigme. On est devant un oracle, mais on ne sait pas trop ce que dit l'oracle. Que raconte le film ? Qui est vraiment Travis ? Qu'est-ce qui s'est vraiment passé au miroir ? C'est quoi ce dénouement ? Bref, qu'est-ce qu'il faut comprendre ? Et cette confusion a créé beaucoup de vous l'avez dit, des mois critiques ou de sensationnalisme. D'autant qu'effectivement, le réel s'est chargé de rattraper le film. On y reviendra peut-être. Mais voilà, je pense que quelque chose dans ce film explique qu'il traverse le temps parce que, comme certains films, je crois que dans votre série, il y a Mulholland Drive, il y a certains films comme ça qui sont des énigmes. On se dit, la clé doit être quelque part, mais on dirait que la clé est dans le coffre.
Heureusement, peut-être qu'on ne la trouve jamais, d'autant que ce personnage est une contradiction ambulante. Une jeune femme qu'il va rencontrer va lui dire, en citant une chanson de Chris Christopherson, c'est un mélange de réel et de fiction. Et Régis Dubois, comme beaucoup de personnages de Scorsese, ce Travis Bickle, c'est à la fois un imbécile, un inculte complet, doté en même temps d'une sorte de sensibilité extraordinaire, d'une acuité de regard développée sans doute par la paranoïa, Régis Dubois.
Oui, c'est vrai que Scorsese affectionne ces personnages un peu de paumés, de losers, de pauvres types. Hein. Il faut prendre Travis, bien sûr, mais aussi Jack LaMotta, mais aussi Rupert Pepkins. dans La Valse des Pantins un peu plus tard. Je pense qu'en fait, il connaît ces personnages. Je trouve qu'on n'insiste pas assez sur le fait que Scorsese vient d'un milieu populaire, d'un ghetto. Ghetto italien, faut savoir, enfin, quand on connaît l'histoire des Italo-Américains, ils ont beaucoup souffert du racisme, hein, surtout les Siciliens, qui étaient, on a même légiféré pour savoir si c'était vraiment blanc, en fait, aux États-Unis. Donc, c'est quand même, il connaît un peu ces gens qui viennent d'en bas, en fait, clairement, et je pense qu'il les comprend. Et, par exemple, si on prend Travis Bickle, c'est vrai qu'il a un côté quand même assez sympathique, il est paumé, il est étrange ce personnage, il est complexe et c'est vrai de beaucoup de ces personnages. Je pense que sa richesse à Scorsese, c'est justement qu'il connaît ces gens-là, il a grandi avec eux et donc il n'a pas de mépris de classe, j'ai envie de dire. Voilà, il a un regard très intéressant sur ces personnages.
Bernard Manoliel.
Oui, c'est vrai, c'est que et ça va aussi dans ce qui fait de ce film un peu unique, c'est qu'effectivement. Travis Bickle est écrit par Paul Schrader, mais Martin Scorsese a pu dire « J'aurais pu écrire, si j'avais su écrire comme Paul Schrader, j'aurais écrit ce scénario ». Il se reconnaît absolument dans Travis, comme Paul Schrader et comme De Niro. C'est-à-dire que il se produit presque un alignement des planètes qui fait que les trois, on pourrait presque ajouter De Palma qui sert un peu de corps conducteur à toute cette histoire, mais disons les trois se reconnaissent absolument dans le personnage de Travis qui, comme le dit Régis Dubois, est un personnage qui leur ressemble, en ce sens qu'ils sont à la fois un peu reconnus par le système dans lequel ils veulent entrer absolument, et en même temps un peu des outsiders, un peu des marginaux, pas encore, en tout cas à l'été 72 ou 73, pas encore de plein pied. Et effectivement, Taxi Driver va changer à tous les trois leur statut complètement et ils vont, en quelque sorte, accomplir leurs objectifs.
Oui, parce que Robert De Niro lui-même avait en projet un film qu'il voulait réaliser, Régis Dubois, l'histoire d'un type qui descend dans la rue avec des armes et qui s'apprête à s'en servir.
Il y a un alignement des planètes, tous les trois en fait sont un peu des outsiders carrément, un peu carrément des névrosés. Robert De Niro est un personnage énigmatique, qui parle très peu, qui parle pas en fait. Il s'anime devant la caméra, mais dans la vraie vie privée, il ne parle jamais. Donc voilà, ils ont tous comme ça ces caractéristiques et ma foi, ils se reconnaissent dans ce personnage complètement à la fois dérangé et surtout qui est étranger au monde. On en revient à Camus, on n'en a pas parlé, mais... ils se sentent étrangers au monde, ils ne savent pas communiquer avec ce monde-là, et c'est vrai que c'est ce qui les regroupe tous les trois.
Et Robert De Niro apporte évidemment énormément à son personnage, c'est lui qui l'incarne, mais il apporte une sorte d'animalité un peu étrange, Bernard Benoliel. C'est-à-dire que c'est à la fois, ça tient du félin et du crabe.
Il faudrait revenir sur ce qu'est la formation d'acteur de Robert De Niro. C'est quelqu'un qui, en deux mots, se sent en quelque sorte un potentiel, comme Travis. C'est pour ça qu'il écrit, lui, comme vous disiez, un scénario qui raconte un peu l'histoire de Travis. Puis quand il lit le scénario de Schrader, bon, bah, disons, il se rend compte de la différence, mais il reverse son énergie dans le rôle d'acteur qu'il va tenir. Et effectivement, c'est quelqu'un qui a suivi les cours d'une femme qui s'appelle Stella Adler. Et Stella Adler avait un conservatoire de l'acteur. Et au sein de ce conservatoire de l'acteur, elle a beaucoup appris à De Niro à jouer. Que fallait-il faire pour jouer? Alors, après, c'est devenu célèbre, la méthode de Niro, mais c'est une méthode qui repose en particulier, effectivement, sur l'accumulation d'expériences, l'accumulation de matériaux, mais pas seulement, loin de là. L'imagination créatrice, disait Stella Adler, et auprès de Lee Strasberg, donc là, plutôt du côté de l'Actor Studio, tout ça est un peu poreux et voisin, effectivement, Lee Strasberg avait développé cette théorie qui consistait à faire que les acteurs observent les animaux. Et ça, De Niro, ça va lui parler énormément. Effectivement, il dit de Travis, dans la première partie du film, que pour lui, il est comme un crabe, c'est-à-dire qu'il ne va jamais droit, il va en zigzag, à droite, à gauche, il est en quelque sorte ballotté par les événements, et il ne sait pas à quel scénario s'accrocher. Et puis, De Niro lui-même a dit qu'il, pour préparer le personnage de Travis, il est allé au zoo. Il a observé le loup. Parce que le loup, comme un taxi, finalement, est dans une position d'attente, d'observation. Bon. Et puis, De Niro, c'est connu, alors lui, là, je parle de la personne, un tatouage sur le bras droit qui représente une panthère, c'est aussi beaucoup inspiré les félins. Parce que, à un moment, on peut dire que Travis sort de ses gonds, littéralement sort de sa cage, jaillit, et que dans ce jaillissement, effectivement, l'animal est une source d'inspiration.
Et puis, méthode Actor Studio toujours, Régis Dubois, Robert De Niro va réellement conduire un taxi la nuit dans New York pour se préparer à son rôle.
Oui, il va passer un permis, et effectivement, en fait, Robert De Niro, quand il endosse un rôle, il reste le personnage, en fait, c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que même sur le plateau, s'il doit être fâché avec un personnage, enfin son personnage avec un autre personnage, ben, il lui parlera pas, et c'est vrai qu'il va faire le taxi toute la nuit, d'ailleurs c'est comme ça qu'il va rencontrer sa future compagne, qui d'ailleurs qui a un petit rôle dans le film, et oui, ben, il le fera après avec Raging Bull, et c'est vrai qu'il a cette... C'est très impressionnant en fait, et c'est ce qui fait à mon avis la grande qualité du film. C'est l'investissement qu'il y met, quoi. J'ajouterai quand même quelque chose sur Martin Scorsese en fait. Pourquoi il se reconnaît aussi dans ce personnage en fait, c'est que c'est tellement autobiographique. Il me semble que tous les films de Martin Scorsese sont éminemment autobiographiques. Et là, ce personnage qui regarde le monde à travers une vitre. Je parle bien sûr de Travis. C'est toute l'histoire de Scorsese enfant qui était asthmatique, qui pouvait pas aller jouer dans la rue. Et qui voyait le monde et le monde de la violence aussi, parce que ce quartier est un quartier populaire avec pas mal de violence, avec et aussi la mafia. C'était près du Bowery, qui était un quartier vraiment sordide, avec des clochards qui se battaient à longueur de temps. Enfin, il y avait des crimes de sang. Donc tout ça, ça nourrit. Enfin, Scorsese se reconnaît bien sûr entièrement dans ce personnage qui à la fois est un voyeur, voit le spectacle de la violence, mais aussi est seul, est paranoïaque et aussi avec une grande violence en lui, en fait, la violence qu'il a observée, qu'il a subie, et qui a nourri un peu sa colère, parce qu'il fonctionne, il carbure la colère, Scorsese, hein. Donc tout ça fait que, effectivement, tous ces trois cinéastes, on va dire, donc scénaristes, acteurs et réalisateurs, se reconnaissent vraiment dans ce personnage qui dit aussi quelque chose d'universel. Peut-être on n'a pas assez insisté, mais c'est vrai que Travis, il n'est pas caractérisé, c'est aussi parce qu'il est atemporel et universel. D'ailleurs, c'est pas The Taxi Driver, c'est Taxi Driver. Il y a quelque chose comme ça de tout le monde a un Taxi Driver en lui, tout le monde a un Travis Bickle en lui.
Nous sommes tous Travis Bickle. Bernard Ménoliel, avant qu'on passe à l'extrait suivant, ça m'intéresserait qu'on parle de la fin de cette séquence, parce qu'on va parler plus tard de la fameuse scène du miroir, qui est vraiment le centre de votre livre. Mais il y a un plan très étrange à la fin de cette séquence d'embauche. Travis Bickle va quitter ce dépôt de taxi, et tout d'un coup, la caméra qui le suit quasiment tout le temps, ne le voit plus, prend son autonomie, et vous y voyez, vous, une préfiguration de ce qui va se passer dans la scène du miroir, mais aussi d'un plan assez célèbre du film qui avait beaucoup interloqué les critiques à l'époque, où Travis Bickle est au téléphone, puis la caméra le quitte, filme un couloir vide pendant longtemps, avant que Bickle revienne dans le champ. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
Bah, c'est vrai que c'est là, à propos du plan dans le couloir dont vous parlez, donc Travis est au téléphone, puis la caméra l'abandonne pour aller filmer un espace dans lequel il n'est plus. Scorsese a dit, c'est une des premières formes qui m'est venue pour raconter cette histoire. C'est un plan auquel j'ai pensé en esprit dès le début et qu'on a tourné tout à la fin. C'est des moments de pure mise en scène où Scorsese prépare en quelque sorte l'évolution du personnage, ou prépare le film à sortir de ses gonds. C'est-à-dire que c'est des moments où effectivement la vision de Travis Bickle ne correspond plus à ce qu'on voit. Et il se produit une dissociation entre sa vision et ce qu'on voit, presque une décorporation, et la caméra s'autonomise. C'est-à-dire qu'elle prend son indépendance et on dirait que quelqu'un d'autre regarde. Mais qui est cet autre? C'est tout l'enjeu, évidemment, pour moi, en tout cas, de la scène du miroir. Cet autre-là, c'est quelqu'un qui a à voir avec Travis, sans que ce soit celui qu'on a vu jusqu'à présent.
Alors, on va l'entendre tout à l'heure, cette célèbre scène du miroir. Pour l'instant, on passe à la suite immédiate de la séquence qu'on a entendue tout à l'heure. Et pour le coup, on rentre dans la tête de Travis Bickle.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Jeudi 10 mai. Dieu soit loué, il a plu. Une pluie qui a lavé les trottoirs de toutes les ordures qui y traînent. Je fais maintenant la journée continue. Je devrais dire la nuit continue. De 6h du soir à 6h du matin, même quelquefois jusqu'à 8h, et ça 6 jours par semaine, parfois 7. Il faut le faire, mais en tout cas, ça m'occupe. Je me fais dans les 300-350 dollars par semaine, et même plus quelquefois quand je mets le compteur en veilleuse. « toute une faune qui sort la nuit. Butte, chatte en chaleur, enculée, folle, pédée, pourvoyeur, camée. Le vice et le fric. Un jour viendra où une bonne pluie lavera les rues de toutes ces tracailles.
Ce que décrit Travis Bickle tel qu'il le voit dans son taxi, c'était dans le scénario, mais ça doit beaucoup évidemment au plan volé à bord du taxi. On imagine toute l'équipe de tournage rassemblée dans ce taxi avec le preneur de son dans le coffre, Martin Scorsese et son chef opérateur sur la banquette arrière. D'ailleurs, certains critiques regretteront que Scorsese ne s'en tienne pas à cette dimension documentaire proprement du film. On est dans le New York en perdition du milieu des années 70, qui plus est dans le climat très caniculaire de l'été 1975, avec, pour parachever le tout, une grève des éboueurs qui baigne la ville d'une odeur pestilentielle qu'on a presque l'impression de sentir à l'écran. Le tournage de ce film, Régis Dubois, Scorsese le racontera, est un cauchemar, et c'est un tournage très dangereux aussi.
Ben c'est surtout c'est très difficile. Alors c'est un très petit budget, hein, c'est $1,3 million. Pour situer, en fait, le film suivant, New York, c'est 10 fois plus, hein, c'est 14 millions. Donc c'est un petit budget, c'est serré. Il y a 8 semaines de tournage. Effectivement, il fait très chaud. Et puis Scorsese est très nerveux, en fait, dort mal. D'ailleurs, c'est là où il commence à prendre de la cocaïne. Hein.
Comme un peu tout le monde sur le plateau, si j'ai bien compris.
En tout cas, dans le cinéma, c'est vrai que depuis 72, la cocaïne est arrivée sur les plateaux et ça va faire beaucoup de dégâts. Et c'est vrai que pour Scorsese, c'est un peu le début de la fin, puisqu'il va finir en dépression en 78. Quasiment, il va être hospitalisé entre la vie et la mort à cause de la cocaïne et aussi de l'asthme. Voilà, ce film, il cristallise quelque chose de... C'est Sodome et Gomorrhe, quoi. C'est la perversion totale, c'est la ville. Bon, bien sûr, la campagne contre la ville, ici, c'est la déchéance. Et c'est vrai que 75, au moment où il tournait le film, on est dans une bascule. C'est-à-dire que le rêve hippie, le rêve des années 60, a tourné au cauchemar depuis longtemps. En 77, quand même, New York sera en faillite. Hein, il y aura un blackout. Enfin, ça va être... Voilà, on est dans quelque chose comme ça. C'est vrai que le film, ce qui fait sa qualité, c'est aussi ce côté de témoignage, où on voit des vrais gens. C'est tourné à la manière Nouvelle Vague, hein, puisque c'est tourné en décor réel, avec petit dispositif, vous l'avez dit. Et ce qu'on voit, effectivement, les pimps, hein, les macros, etc., de Harlem, de Times Square, du Duss, hein, de la 42e rue, tous ces coins mal famés, voilà, c'est vrai que c'est des images assez précieuses. Et effectivement, c'était un tournage assez compliqué.
Pour ceux qui découvriraient le New York d'aujourd'hui et la 42e rue disneyisée, c'est vrai que le choc est violent. Bernard Benoliel.
Au milieu des années 70, New York... C'est une ville en perdition, c'est une ville en ébullition. Schrader disait c'est une cocotte minute. On avait l'impression que tout pouvait arriver, le pire évidemment, on était soumis à l'accident. Donc ça semble le lieu le plus malfamé et le moins propice à un tournage. Et évidemment, en même temps, il faut jamais perdre de vue que c'est l'endroit idéal pour faire Taxi Driver. C'est-à-dire que c'est cet état de la ville qui se communique au film. Et en quelque sorte, je crois que Pauline Kael, la critique de cinéma, avait une phrase pour dire « La ville de New York a aidé le cinéma américain à grandir ». Et donc, c'est l'endroit idéal. C'est l'endroit absolument parfait pour que s'accomplisse cette fusion, effectivement, entre la ville et le film. Et comme le dit Régis Dubois, le tournage s'est déroulé, que ce soit en intérieur ou en extérieur, à plein la ville. Et Scorsese racontait une anecdote en disant qu'un soir, lorsqu'il avait essayé de quitter le tournage en traversant la rue pour aller rejoindre son père qui venait vers lui, il dit « la foule qui circulait sur les trottoirs était telle que j'avais du mal à rejoindre le plateau, c'est-à-dire la caméra, le lieu où était son équipe. Il n'arrivait plus à fendre la foule tellement elle était compacte. Il faut bien imaginer que c'était une ville, un chaudron. Mais je pense que dans ce chaudron, il y a tous les ferments de la création.
Et puis il y a cette voix off qu'on a entendue dans cet extrait qui revient régulièrement, qui est le journal qu'écrit Travis Bickle, qui donne une ambiance très film noir, hein, c'est la voix off du film noir des années 40, mais c'est aussi, Régis Dubois, une des sources de Schrader. Il a été inspiré par le journal tenu par un certain Arthur Bremer qui avait tiré sur un candidat à la présidentielle, George Wallace, en 1972.
Tout à fait, à un moment où il écrit le scénario, il s'inspire de ce fait divers, entre autres. C'est aussi inspiré de Pickpocket, du coup, de Bresson. C'est vrai que ça fonctionne plutôt bien parce qu'on est dans un point de vue qui est interne très souvent. On ne voit que ce que voit en fait Travis Bickle. Donc effectivement, la voix intérieure en fait du personnage nous permet de nous identifier à son regard. Il faut savoir que tout ce qu'on voit dans le film, c'est ce que voit Travis Bickle ou ce qu'il imagine d'ailleurs. Hein, ça, c'est une question.
Il y a notamment tout ce qu'il voit, mais c'est là qu'on quitte le réalisme. C'est qu'il y a des choses qu'il voit qu'il ne devrait pas voir, et notamment des scènes qui impliquent les deux figures féminines qu'il rencontre dans le film. Betsy, qui est jouée par Cybill Shepherd, et Iris, qui est jouée par Jodie Foster, une militante d'un parti politique et une prostituée mineure, 12 ans et demi, dit-on, dans le film. C'est la maman et la putain, sauf que pour Travis Bickle, là je vous cite vraiment Bernard Benoliel, son objectif c'est de baiser la maman et de sauver la putain.
Disons que Travis se trompe un peu, ou en tout cas organise son erreur inconsciemment, c'est-à-dire que il a cette idée folle il fantasme sur Betsy, donc cette jeune femme qui travaille pour un candidat, un homme politique. Il fantasme sur elle parce que c'est la blonde hitchcockienne, pour résumer. Elle semble intouchable, c'est l'Immaculée Conception. Ah, c'est un idéal féminin. Lui qui vient effectivement des taudis et de l'invisibilité du monde, il ne peut que fantasmer sur elle. Et lorsqu'il obtient un rendez-vous amoureux avec elle, la seule chose qu'il trouve à faire, mais parce que c'est son monde, il n'a pas d'autre référence et que pour lui c'est ainsi, enfin en tout cas pour partie, il l'emmène voir un film porno. Donc pour elle, évidemment, c'est une fin de non-recevoir et c'est l'horreur. Et lui a du mal à comprendre sa réaction à elle. Et en même temps, on peut se dire que d'une certaine manière, Travis a fait exactement ce qu'il ne fallait pas, parce que évidemment, il a une phobie de l'acte sexuel. Et pendant qu'il organise sa frustration, il organise en lui la montée de la rage et qui va lui permettre de passer à l'acte comme il l'entend. Mais donc c'est quelqu'un qui, au lieu d'emmener la prostituée au cinéma porno, il emmène la Vierge et il essaye de sauver la prostituée alors qu'il aurait dû avoir un comportement chevaleresque avec la blonde hitchcockienne. Bref, il se trompe à chaque fois de scénario.
Mais ce que vous disiez tout à l'heure, Bernard Benoliel, il hésite entre plusieurs scénarios, et ces divers scénarios, vous les avez identifiés dans votre livre. Il y a ce scénario, donc le scénario que vous appelez Kim Novak, de la blonde hitchcockienne. Il y a le scénario Prisonnière du désert. Là, il s'agit de sauver la jeune fille perdue. Il y a aussi ce que vous appelez le scénario noir, qui a un peu bougé dans le film parce que le personnage de Macro, joué par Harvey Keitel, au départ était écrit comme un personnage noir, et puis le scénario Zapruder, du nom du petit film en 8 mm qui avait documenté l'assassinat de Kennedy. En fait, c'est comme un cinéaste qui hésite. Où est-ce qu'il va passer à l'acte, où est-ce qu'il va réaliser ces scénarios fantasmés?
Ben oui, parce que Travis, qui est un regard, hein, donc on pourrait dire une sorte de caméra enregistreuse en permanence, se demande, pendant au moins une heure de film, à quel sein il va se vouer, à qu'est-ce qui va bien faire qu'il va exister, comment ce nobody, ce personne, va devenir quelqu'un. Donc il cherche un point d'ancrage. Si bien que, et on pourrait dire, il a choisi d'être conducteur de chauffeur de taxi, parce qu'un chauffeur de taxi, ça connaît la direction, ça connaît la géographie, ça sait où aller. Et lui, tout son souci, c'est de savoir comment se diriger. Donc effectivement, il va, mais comme une boule de flipper, d'un scénario à l'autre, en attendant que quelque chose prenne. Mais pendant qu'il fait tout ça et qu'il est incohérent, ou que tout ça a l'air indifférent et que rien n'a l'air de prendre, quelque chose effectivement se sédimente en lui, s'accumule, monte pour justement que ça siffle comme la cocotte minute.
Oui, c'est important de voir que ce récit n'a aucune logique en fait. Ça fonctionne avec des pulsions, c'est-à-dire que Scorsese dit que ce film parle de frustration sexuelle. On ne voit jamais de nudité d'ailleurs. On parle de sexe, mais on n'en voit jamais, parce que il raconte que voilà, l'explosion finale en fait de violence, c'est aussi une forme de, c'est le moment où la libido s'exprime, j'ai envie de dire, et ces personnages de blonde là, c'est très important dans l'œuvre de Scorsese, c'est-à-dire la Madone, hein, c'est sa culture, c'est son éducation, ça, dans son quartier c'était comme ça, on était soit une femme pure, soit une putain, et c'est vrai que ce rapport qu'il a aux femmes, lui-même Scorsese, mais bien sûr Travis Bickle, est très problématique, et c'est une frustration totale, et c'est comme ça que ça monte en fait, et c'est vrai que tous ces choix sont des pulsions de l'instant, il y a rien de cohérent dans tout ce parcours. Hein.
Et puis, on y arrive enfin, on n'arrête pas de l'annoncer depuis tout à l'heure, dans Taxi Driver, il y a la scène, plus célèbre encore sans doute, que le film lui-même.
I'm standing here, you make the move. You make the move. It's your move. I'm trying you. Fuck. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, then who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who the fuck do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Huh? Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. Who would not let... Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is someone who stood up. Here is... You're dead.
Vous écoutez France Culture, 10 films qui ont changé le monde. 7e épisode, Taxi Driver, avec Bernard Benoliel et Régis Dubois. Il fallait bien qu'on entende la voix de Robert De Niro. C'est la scène la plus célèbre du film, une des scènes les plus célèbres de toute l'histoire du cinéma. Et pourtant, Régis Dubois, c'est une des nombreuses séquences dites improvisées du film. En tout cas, elle n'est pas écrite du tout comme ça dans le scénario de Paul Schrader, Régis Dubois.
Tout à fait. Ouais. C'est vrai que c'est De Niro qui a demandé à Martin Scorsese d'essayer en fait voilà ces dialogues improvisés. Alors semble-t-il, il y a plusieurs explications, mais qu'il aurait été inspiré par un concert de Bruce Springsteen, qui en apparaissant sur scène aurait tourné le dos au public en disant c'est à moi que vous parlez, enfin you're talking to me. Donc ça viendrait de là peut-être, mais aussi peut-être de la méthode de l'acteur studio de Adler de répéter comme ça des phrases sur plusieurs tons, plusieurs tonalités. Bref, tout ça fait que ça marche super bien. C'est vrai que c'est une scène. Je sais pas si on peut l'analyser. Bien sûr, on va l'analyser, j'imagine.
Et comment ?
Mais je crois qu'il y a une vérité dans cette scène. C'est toute la magie de cette scène-là. C'est le regard fou de Robert De Niro. Voilà, c'est tellement vrai, quoi. C'est tout se joue dans les yeux et puis aussi le montage, etc.
Il y a le souvenir d'une autre scène de miroir. Il y en a beaucoup dans l'histoire du cinéma, évidemment. Laquelle va ressurgir chez Martin Scorsese, Bernard Benoliel, quand il va donner des indications tout de même à De Niro?
Vous savez, Scorsese est un cinéphile universellement connu et reconnu, mais un vrai cinéphile. Donc, j'allais dire, pour Scorsese, les références se bousculent. Mais disons que sans doute... Une qu'il partage avec De Niro, c'est un film de John Huston en 1967 qui s'intitule « Reflet dans un œil d'or » et où le personnage principal est joué par Marlon Brando, qui est une des grandes références pour un acteur comme De Niro à la fin des années 60, un des grands, sinon le plus grand acteur de sa génération, et l'un des plus grands porteurs de justement la méthode de l'acteur studio. Et dans ce film de Huston, Marlon Brando est sanglé dans un uniforme militaire et il se parle dans un miroir. À la fois, il murmure, il a l'air de se flatter, de s'aimer, on sent qu'il y a une sorte de moment narcissique. Et puis à un moment, dans la même scène, il commence à s'invectiver, il commence à se mépriser, il commence à s'insulter. Et donc on comprend qu'il y a évidemment un conflit qui se joue là, et ce conflit au miroir se joue sous le regard d'un personnage à l'extérieur de l'appartement. Et donc cette scène-là, pour Scorsese, est un guide pour De Niro, de même que Paul Schrader a essayé de guider De Niro en lui disant, en tout cas parce qu'il y a deux scènes du miroir dans le film Taxi Driver, qui sont tournées au même moment, c'est une seule et même effectivement improvisation. Et Schrader avait dit à Robert De Niro, imagine que c'est un petit garçon qui joue avec les flingues qu'il a eu pour son anniversaire. Bon, mais c'est tout ça qui effectivement fait que dans cette improvisation de quelques heures, De Niro trouve le dialogue ou le monologue qu'on vient d'entendre. Cela dit, il faudrait revenir sur ce qu'on entend par improvisation. L'improvisation n'étant pas seulement le jaillissement du moment, c'est un intense travail qui prend du temps, qui prend du temps de répétition sur certaines scènes de Scorsese faisait même en sorte d'enregistrer les moments d'improvisation. Lorsqu'il trouvait que c'était intéressant, il faisait taper ce qui s'était dit, puis il le faisait apprendre aux acteurs, et c'est ça qu'il jouait ensuite, et c'est ça qu'on appelle improvisation.
Et au théâtre, on appellerait ça de l'écriture au plateau. Et Régis Dubois, il y a une récurrence du motif du miroir, tout de même, chez Scorsese, et dès le début, un de ses courts-métrages très célèbres s'appelait « The Big Shave », et il y avait déjà une fameuse scène de miroir.
Et quelle scène, quelle scène. Oui, c'est pour moi ça renvoie à la question du double qui est très très présente chez Scorsese et notamment dans ce film, puisque effectivement la scène du miroir c'est la bascule ici, hein, chez Travis Bickle, quasiment le reflet prend le dessus, on va dire, en tout cas la folie de l'homme, enfin le double. Mais voilà, c'est aussi l'autoportrait, puisque on l'a dit, hein, Martin Scorsese se reconnaît dans ce personnage. Ça parle aussi de schizophrénie, de double identité. C'est pour ça que ce motif est très récurrent chez Scorsese. Tout petit, il se posait la question, mais qu'est-ce que je suis? Est-ce que je suis italien? Est-ce que je suis américain? Il a toujours ce dilemme, en fait, cette double conscience, c'est-à-dire de venir d'un monde, enfin d'être un transfuge de classe. C'est-à-dire qu'en fait, il a toujours le cul entre deux chaises, il appartient à aucun monde. Quand il était dans son monde à lui, il se sentait à l'étroit. Quand il arrive à Hollywood, dans ce monde WASP, c'est-à-dire de blond aux yeux bleus, hein, de white anglo-saxon protestant, lui, c'est le petit Rital sicilien. Et effectivement, il a un problème d'identité, il se cherche. Et le miroir, je pense, qu'on retrouve dans The Big Shave, dans Mean Streets, mais aussi dans Raging Bull et dans tellement de films, c'est une façon de se questionner sur qui il est. Et finalement, Travis, c'est pareil, il se cherche, il est vide, quoi, il se cherche.
Le reflet prend le dessus, venez-vous de dire, Régis Dubois, c'est effectivement le noyau central de votre livre, Bernard Benoliel, le plan 556. Qu'est-ce qu'il se passe dans ce plan 556?
Alors le plan 556, c'est un moment où effectivement donc Travis est au miroir, mais il n'est plus au plan 556. Tout d'un coup dans le raccord, il n'est plus devant le miroir. Mais on se rend compte, enfin, si on regarde, c'est qu'il est dans le miroir.
On a un indice parce que Robert De Niro a un grain de beauté célèbre et selon le côté du grain de beauté, on peut savoir où on est.
Et puis jusque-là, il était droitier et tout d'un coup, il devient gaucher. Donc, on sait qu'on a basculé, on pourrait dire qu'on a traversé le miroir et on est passé dans le miroir. Si bien que, et à partir de là, on peut considérer que le film sort de ses gonds et ne reviendra plus jamais au réalisme. C'est-à-dire que tout ce qui va suivre est en quelque sorte une expression de cet autre Travis, celui qui est dans le miroir, celui qu'on avait pressenti avec les moments de décorporation et d'indépendance de la caméra, cet autre Travis qui n'est que le même, mais sa version augmentée, hein, on a parlé de Dostoïevski, il y a un roman de jeunesse de Dostoïevski qui s'appelle Le Double, et qui est exactement cette histoire, c'est-à-dire quelqu'un a un double qui fait tout comme lui, sauf que ce double fait tout mieux que lui. Et donc, Travis 2, d'une certaine manière, c'est la version réussie de Travis 1. Travis 2, c'est l'artiste. C'est aussi le criminel, mais chez Nietzsche, le criminel et l'artiste appartiennent, comme ils disent, à la même espèce. Donc, je pense que dans ce moment-là, Scorsese a dit de cette scène du miroir, je cherchais à faire que cette scène du miroir ne ressemble pas à toutes celles de l'histoire du cinéma. Et ce qu'il trouve, c'est qu'effectivement, il abolit la question d'être devant le miroir et il trouve le moyen de faire en sorte qu'on voit le film comme inversé ou dans le miroir. Et donc ce plan 556, c'est le moment de l'avènement de ce que j'appelle l'autre Travis et qui serait sa version sinon améliorée, ce que j'appelle, disons, la version artiste de Travis, parce que, évidemment, si c'est un autoportrait, c'est donc aussi un autoportrait de Scorsese en artiste. Et Dieu sait que non seulement les références cinématographiques, mais picturales, sont cruciales dans le film et qu'on peut considérer Travis comme un peintre sanglant.
Eh bien, comment Travis Bickle fait du Jackson Pollock sur les murs d'un hôtel sordide? Illustration.
France Culture. Les films qui ont changé le monde. Antoine Guillot.
Transport, ça va?
Ça va, mec, ça va. Et toi? Mais où je t'ai déjà vu?
Ah, j'en sais rien. Ça va toujours, les affaires pour les macros? Hein?
Je te connais?
Non. Et moi, je te connais?
Allez, casse-toi, débine-toi.
Moi, je te connais? Comment va Iris? Tu connais Iris?
Non, je connais Iris. Personne qui s'appelle Iris. Iris? Allez, fous le camp, m'emmerde pas.
Tu connais personne qui s'appelle Iris?
Juré, je ne connais personne qui s'appelle Iris.
Non.
Hé, retourne dans ta putain de tribu avant qu'il ne t'arrive des emmerdes. Fais-moi plaisir, je veux pas d'embêtement. Hein. Ok?
Tu as une arme?
Tu vas foutre le camp, oui ou merde? Taille-toi, je te dis.
Tiens, prends ça.
Une scène de massacre qui va prendre de plus en plus des allures de carnage, c'est le final avant un épilogue sur lequel on reviendra de Taxi Driver, une scène qui est très décrié à l'époque par les détracteurs du film pour sa violence excessive, gratuite, vieux débat dans le cinéma. Et d'ailleurs, Régis Dubois, Scorsese sera lui-même interloqué par la réaction des spectateurs quand il assistera aux premières du film.
Ben, c'est vrai que y a un côté vigilante en fait, il y a un côté assez grisant et presque jubilatoire puisque il y a un déchaînement de violence. Et les spectateurs sont identiquement dédiés au personnage que voilà, il y a une sorte de jubilation à cette scène là. C'est toute la complexité du film en fait, c'est qu'il est très contradictoire. À la fois là on est en 76, à un tournant dans le cinéma américain, c'est-à-dire en les revendications minoritaires, le mouvement hippie, la contestation, je veux dire c'est en train de refluer, on tend vers le réganisme, hein, vers la révolution conservatrice, et c'est vrai que ce film il dit ça. C'est-à-dire en fait, il y a le côté restauration de la virilité blanche, etc. C'est un film quand même qui, enfin, Trévis est assez raciste. Hein, on peut pas assez insister, mais c'est vrai que les Noirs sont très mal, enfin, sont considérés comme des voyous, etc. Et à la fois, donc les spectateurs, c'est ce qu'ils trouvent. En fait, chacun y trouve un peu ce qu'il veut. Mais c'est vrai que pour Scorsese, c'est pas du tout ça le discours. Au contraire, ce qu'il veut montrer ici, c'est la logique du machisme. Une sorte de masculinité toxique. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, c'est que Travis est grotesque, il est maladroit, il n'est pas du tout héroïque dans cette scène. Il ressemble à une sorte de King Kong, là. Et d'ailleurs, Scorsese disait que c'est un film Taxi Driver est plus féministe que son film précédent, dont l'héroïne était une femme. Parce que voilà, il montre la logique de cette violence, jusqu'où elle va, en fait. Donc voilà, c'est un texte, enfin, c'est un film qui est hybride, à mon avis, qui est dû à côté bicéphale de Schrader, assez conservateur, et Scorsese plus progressiste. Donc ça contente un peu tout le monde, et c'est ce qui fait les grands films, en fait. C'est-à-dire les films qui sont complexes, et dans lesquels il y a plusieurs lectures.
Ce qui est assez passionnant, je ne sais pas si c'est un effet du miroir, c'est que la première fois que Travis Bickle rencontre Sport, le macro, donc joué par Harvey Keitel, s'adresse à lui en disant « cowboy ». Et là, très clairement, il l'a traité d'Indien. Retourne dans ta tribu. Il faut dire que Travis Bickle s'est fait une coupe à l'Iroquoise. Mais voilà, c'est l'Indien qui revient massacrer.
Ben, on est après le plan 556. Donc on est après l'avènement du refoulé. C'est-à-dire que, par exemple, ce qui revient, ben, c'est l'histoire de l'Amérique, c'est-à-dire le premier massacre ou le premier génocide, celui dont on ne parle pas, et que tout d'un coup, Travis Bickle arbore, c'est-à-dire avec sa coupe à l'Iroquois, qui, elle, vient effectivement de comportements de certains soldats, au Vietnam, mais le Vietnam étant lui-même une reconduction du massacre primitif ou du génocide primitif. Voilà, c'est un ouvroir, ce film. Et d'ailleurs, Scorsese en avait eu la préscience parce que, à propos de la scène du miroir, il avait dit, j'ai senti qu'à cet endroit-là, on pouvait ouvrir le film. À l'ouvrir à quoi? Bah, à l'ouvrir à tout ce qui, d'ordinaire, n'est pas montré. Et par exemple, ici, disons l'histoire de l'Indien.
Et alors, ouvrir le film, c'est prendre de la hauteur aussi. Il y a, à la fin de cette séquence de massacre, de carnage, Régis Dubois, un plan très étrange qui est un travelling en plongée. On a comme supprimé le plafond et la caméra va quitter cette scène de crime en plongée, puis va filmer de très près les éclaboussures de sang sur le mur. Le chef opérateur Michael Chapman dira oh, on dirait du Rauschenberg. Nous, on pourrait effectivement penser à du Pollock. Vous la comprenez comment, ce mouvement de caméra étrange comme un point de vue surplombant, Régis Dubois?
Alors, traditionnellement, c'est le regard de Dieu, on peut dire ça. Moi, je vais émettre une hypothèse. Peut-être que c'est l'âme de Travis, en fait, qui s'en va. On retrouve ça aussi dans certains films. Ce qui voudrait peut-être dire, alors je lance comme ça une possibilité, une piste, hein, parce qu'il y en a plusieurs sur la fin du film, mais peut-être que la suite de ce qu'on voit, l'épilogue, peut-être que c'est un épilogue qui est peut-être imaginé, qui n'existe pas, je ne sais pas. Peut-être que Travis est mort, et peut-être que tout le reste, qui est quand même assez absurde quand on y pense, puisque Travis devient un héros pour les médias, peut-être que tout ça, c'est... Alors il y a plusieurs explications, hein, mais... Voilà, à mon avis, le regard de Dieu ou peut-être l'âme de Travis qui s'égare comme ça, qui prend du recul sur ce qui vient d'arriver. Voilà.
On ne sait pas effectivement si cet épilogue est issu de la tension entre Paul Schrader et Martin Scorsese. Paul Schrader voulait, inspiré aussi par le feu follet de Louis Malle, faire l'histoire de quelqu'un qui se suicide. Sauf que aux États-Unis, quand on veut mourir, on se tire pas une balle dans la tête. D'abord, on descend tout le monde pour se faire descendre par la police. On en a des illustrations sans arrêt encore actuellement. Comment vous le voyez-vous, Bernard Benoliel, cet épilogue qui montre Travis Bickle devenu un héros parce qu'il a il a débarrassé la ville d'un certain nombre de malfrats, il a renvoyé cette jeune fille chez ses parents, et puis il y a l'épilogue de l'épilogue qui est encore plus complexe à comprendre, Bernard Benoliel.
Oui, mais je suis d'accord avec Régis Dubois. L'une des hypothèses possibles, c'est qu'à la fin du carnage, Travis est mort et que le plan au plafond. C'est en quelque sorte l'ultime des corporations, ou le moment où en quelque sorte Travis 2 se retire, sa mission accomplie, si je puis dire, et quelque chose s'arrête là. Et puis, ça serait, disons, la fin voulue par Paul Schrader, c'est-à-dire ce qu'il appelle le samouraï, le suicide glorieux. Bon, hein, c'est quand même Paul Schrader, l'auteur d'un film sur Mishima. Voilà. Alors que pour Scorsese, il serait donc plutôt du côté de l'épilogue, c'est-à-dire ce qui se passe ensuite après la mort de Travis, c'est-à-dire ce moment où il est à la fois célébré par les médias et le moment où la blonde hitchcockienne réapparaît. C'est-à-dire, elle monte dans le taxi, elle a l'air enamourée, il semble qu'en quelque sorte ce paria soit devenu un parvenu et que l'histoire d'amour impossible va pouvoir s'accomplir. Sauf qu'évidemment, tout l'enjeu, me semble-t-il, de ce dernier épilogue, et là-dessus, Scorsese et Schrader sans doute sont d'accord, c'est le regard au miroir, c'est-à-dire le regard dans le rétroviseur. À ce moment-là, d'abord, Travis tourne le dos puisqu'il conduit le taxi à sa belle. Hein. On n'est pas dans le face-à-face qui normalement termine pickpocket et où l'homme et la femme, enfin, au terme du trajet tortueux, se trouve et se retrouve. Mais là, Travis, lui, se regarde dans le miroir. Et dans le miroir, dans le rétroviseur, il voit encore son regard dément à lui, c'est-à-dire le regard de Travis II. Quand on pense au carnet du sous-sol dont on parlait de Dostoïevski, quand le carnet du sous-sol, le texte se termine, le dément, le dépossédé, dit quelque chose comme « j'arrête là d'écrire ». Et puis, Dostoïevski reprend la parole pour une dernière ligne et il dit en substance « mais c'était plus fort que lui, il a continué ». Et dans le regard au rétroviseur, le regard du dément, on voit que ça va continuer. Et d'ailleurs, la fin évidemment raccorde avec le début que vous avez décrit tout à l'heure, c'est-à-dire que de nouveau on est de nuit, de nouveau on est à bord du taxi, et le premier plan du film pourrait être celui qui va suivre le dernier plan du film. Donc c'est une boucle. Et ça va continuer.
Et ça va continuer dans d'autres enveloppes corporelles même que Travis Bickle, Régis Dubois. Ce film qui est considéré comme une grande pierre de touche de l'histoire du cinéma va être projeté dans une salle d'audience parce que quelqu'un se sera pris pour Travis Bickle.
Oui, effectivement, qui était tombé amoureux fou de Jodie Foster. Scorsese, d'ailleurs, avait reçu un courrier aussi, une menace. Enfin, il y avait donc, effectivement...
John Hinckley Jr.
Oui, qui va voir le film, qui va s'identifier et qui va donc commettre un attentat contre Ronald Reagan. Et donc, effectivement, le film sera projeté en salle d'audience parce qu'il a influencé, semble-t-il, le terroriste, on va dire.
Et c'est un film qui aura donc évidemment une grande postérité. La scène du miroir sera citée, recitée, parodiée dans nombre de films. Ce qui me semble plus intéressant, c'est la postérité même du film chez Scorsese, Bernard Benoliel, il y a un film miroir, on l'a évoqué tout à l'heure, de Taxi Driver, c'est La Valse des Pantins.
Oui, et je dirais même qu'il y en a deux. Enfin, il y en a un qui paraît évident comme contre-champ ou suite de Taxi Driver, c'est À tombeau ouvert, un film avec Nicolas Cage de 1999, où là aussi un ambulancier noctambule et insomniaque passe son temps à arpenter la ville, mais là plutôt sur un registre compassionnel où il s'agirait non pas d'être l'antéchrist, mais le sauveur. Mais c'est vrai que, me semble-t-il, le film où un personnage ressemble plus à Travis Bickle, c'est le personnage de Rupert Pupkin, joué par De Niro aussi, et en quelque sorte dont on trouve une trace dans le Joker de Todd Phillips avec Joaquin Phoenix, c'est-à-dire La Valse des Pantins, qui est un film de 1982, et là aussi, où on voit un personnage désireux absolument d'occuper le centre de la scène, alors qu'il est repoussé dans les limbes. Et là, il s'agit d'un meurtre symbolique, puisqu'il s'agit de prendre la place de Jerry Lewis, qui joue le rôle d'un présentateur vedette. Et quand on regarde la structure même de certaines scènes entre Taxi Driver et La Valse des Pantins, on se rend compte que Scorsese a reproduit la même mise en scène. C'est-à-dire que pour lui, il y a presque identité de personnage et de volonté.
Avec notamment des scènes de couloir.
Ah, des scènes de couloir, parce que je crois que dans l'œuvre de Scorsese, aussi paradoxal que ça puisse paraître, les scènes de couloir sont des préfigurations des scènes de miroir.
Martin Scorsese, cinéaste de couloir et de miroir. Un dernier mot, Régis Dubois ?
Oui, c'est-à-dire qu'on peut même dire que tous les films de Scorsese sont des autoportraits, en fait. Donc, en fait, il fait toujours le même film. Bon, c'est le propre d'un auteur. Mais c'est vrai qu'il a dit, hein, je suis les films que je fais. Et il me semble que le schéma narratif, c'est toujours un peu le même. C'est-à-dire c'est un outsider qui intègre un milieu, souvent convoité, hein, ça peut être la mafia, ça peut être autre chose, le monde du spectacle. Et il s'y perd, en fait. Il s'y perd et il tombe dans une sorte de déchéance. Et après, il parvient à une rédemption. Mais c'est tout le cinéma de. C'est la vie de Scorsese, d'ailleurs, parce que c'est ce qui lui est arrivé, en fait. Hein. Il a fantasmé Hollywood et il s'y est brûlé les ailes, hein, dans les années 70, justement, à partir de ce film-là. À la fois, il va prendre la grosse tête, à la fois, il va sombrer vraiment dans la cocaïne, il va se prendre pour une rockstar, enfin bref. Et il va très mal finir. Et d'ailleurs, Raging Bull sera le film de la rédemption, puisque c'est ça qui va le sauver. Mais on a vraiment ce schéma qu'on retrouve dans beaucoup, beaucoup de films, avec cette notion d'outsider, de nobody qui veut exister, et qu'on retrouve bien sûr dans La Valse des Pantins.
How much was it?
Merci Bernard Benoliel et Régis Dubois. On laisse Travis Bickle repartir dans la nuit new-yorkaise pour creuser encore plus loin ce film inépuisable, Taxi Driver de Martin Scorsese, Le Criminel et l'Artiste. Votre passionnante étude du film Bernard Benoliel est édité par Yellow Now. On trouve chez le même éditeur une non moins riche étude d'Opération Dragon avec Bruce Lee. Et puis, pour en savoir plus sur Martin Scorsese avant, pendant et après Taxi Driver, votre biographie du cinéaste Régis Dubois, Martin Scorsese, L'Infiltré, c'est chez Nouveau Monde Édition. À la prise de son aujourd'hui, Élise Leu. Cette émission était préparée par Marceau Vassy et réalisée par Vivian Lecuivre.